France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Emmanuel. J'ai lu votre Call Cause, que j'ai beaucoup aimé. Je voulais vous parler de votre livre. Vous nous emportez en Russie et surtout en Géorgie. Et je trouve que c'est un aspect très intéressant de vos livres. C'est que ça m'apprend des choses et ça me décentre. Donc merci pour ça.
Pour témoigner à son fils son affection et l'assurance qu'il est en train de grandir, une mère lui promet qu'il sera bientôt l'heure pour lui de lire Dostoïevski. Comment les livres et plus largement l'écriture nourrissent, définissent ou abîment les liens dans cette famille, nous n'en finissons pas de le mesurer page après page. La famille, c'est celle d'Emmanuel Carrère, une partie d'entre elles en tout cas, dont l'histoire est retracée à partir de la MDM, mort de maman. Les livres, les films, les récits qui me touchent le plus, écrit-il, sont ceux qui montrent en même temps les dimensions horizontales et verticales de la vie. Horizontale, l'amour, l'amitié, les alliances qu'on noue en faisant la traversée dans les mêmes eaux, dans le même temps. Verticale, les relations entre les générations. Fin de citation. Puisqu'ils sont morts, et tant que je suis vivant, écrit-il encore, je le fais. Écrire, vivre, vivre, écrire pourrait être le sous-titre de Call Cause, Prix Médicis 2025, et tout ce qui, dans ce mouvement lié à la grande histoire, tour à tour, échoue ou parvient à éclairer le réel, en déboulonnant quelques statues au passage. Emmanuel Carrère est notre invité aujourd'hui, on est ensemble pour une heure. Bienvenue dans le Book Club, et bonjour Emmanuel Carrère.
Bonjour.
Call Cause a paru aux éditions POL, je le disais. Il a reçu le prix Médicis 2025. C'est un des grands romans plébiscités de cette rentrée littéraire. Bienvenue dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir ici. On fait toujours, pour commencer, le portrait de nos invités en tant que lectrice et en tant que lecteur. Il y a d'emblée dans votre livre une sorte d'équivalence entre le lien d'affect, en tout cas, qu'il soit négatif ou positif. Et la lecture, il est d'emblée posé parce que vous racontez un souvenir de l'apprentissage de la natation avec votre mère qui coïncide avec celui de lire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous commencez votre vie de lecteur, Emmanuel Carrère?
D'abord, très tôt. Non, mais voilà, j'ai grandi dans une famille où essentiellement, à l'initiative de ma mère, on mettait un point d'honneur à n'avoir pas la télé, pas la radio, donc à lire. Et ma mère disait même froidement à nos instituteurs ou institutrices, puis professeurs au lycée, que bon, c'était pas grave du tout si on avait des mauvaises notes. L'essentiel, c'était qu'on lise. Et c'est ce que j'ai fait et fait toute ma vie, en réalité. Avant tout, mon activité principale dans la vie, mon activité par défaut, c'est de lire. Et je pense que... Je préfère lire à pratiquement toute autre activité, en fait. Je préfère les gens que je connais dans les livres à la plupart des gens que je connais dans la vie. Je préfère rester à la maison à lire que sortir. Enfin, voilà, c'est une... Et l'avantage, c'est que c'est une espèce de... C'est un amour qui ne vous lâche jamais.
Comment est-ce qu'elle avait cette idée ou persuasion qu'il était bon, voire qu'il était tout, de lire votre mère? De quoi est-ce qu'elle tenait cette certitude? Parce que c'est quand même avoir une grande confiance dans les livres et la lecture que de considérer que ça suffira à ses enfants.
Je pense qu'elle-même le tenait de son père. Elle-même avait... ma mère avait grandi dans le monde de l'immigration russe et géorgienne, où il s'agissait de gens qui... plus ou moins, mais somme toute, avaient connu la génération précédente. Disons qu'ils avaient connu des jours meilleurs, plus fastueux, avant la Révolution. Mmh. Et que se retrouvant dans l'émigration, ils s'étaient retrouvés très, très démunis. Mais que, au fond, dans une famille comme celle de ma mère, c'était la richesse qui n'a jamais... qui a toujours été là, quoi. Il y en avait toujours l'impression que ça, c'était le truc qu'on ne nous retirerait jamais, quoi. Cet appétit-là. Et moi, je l'ai hérité. Je pense même que je l'ai transmis à mes enfants.
Oui, finalement, vous dites pas l'inverse en disant c'est un amour qui ne vous lâche pas. Elle, c'est une richesse qu'elle ne perdait pas.
Bien sûr, bien sûr. Et ça a été vraiment, il y a énormément de mes goûts. Enfin, de mes goûts de premiers lecteurs, qui sont sans doute ceux qui vous marquent le plus, qui m'ont été transmis, qui m'ont été transmis par ma mère, oui.
Oui, à tel point qu'on se dit, c'est quand même un certain monde de se voir promettre bientôt la lecture de Dostoïevski. C'est-à-dire, c'est pas bientôt tu pourras regarder tel dessin animé, goûter un gâteau au chocolat. C'est mon fils, l'heure approche pour toi de pouvoir enfin lire Dostoïevski. Ça dit quand même un lien, Emmanuel
Carrère. Et le moment venu, le moment où il a été considéré
quel moment, en plus,
que je pouvais lire Dostoïevski, qui était quand même un moment, c'était assez précoce. Enfin, je pense que je devais avoir 12 ou 13 ans.
Bah oui, c'est ton été
à ce moment-là, pendant un été où, comme vous dites, on avait cru que j'étais atteint d'un souffle au cœur, ce qui impliquait de rester dans une chaise longue au moins tout l'été et éventuellement toute la suite de ma vie. Et il s'est révélé que je n'avais aucune espèce de souffle au cœur, mais bon, disons, voilà, ça a été le moment de la lecture de Dostoïevski, et je me souviens que ma mère était allée acheter à la librairie de Biarritz, dans une où nous passions nos vacances. Pas seulement les deux volumes de Dostoïevski en livre de poche à l'époque, de l'idiot, puisque c'était l'idiot, mais deux fois les deux volumes, de manière à le lire en même temps et à pouvoir le commenter. Et c'est une chose, ma femme lisant ça dans mon livre me disait, c'est quand même bizarre, c'est une intimité assez troublante de lire un livre en même temps, à un ou deux chapitres d'écart tout au plus, de les commenter pendant presque toute la durée d'un été. Ouais, ça a été une drôle d'expérience qui était très très marquante. Et l'idiot, c'est vraiment le début de l'idiot. C'est quelque chose qui m'a marqué pour la vie. Le début de l'idiot, ça a une particularité. La première partie qui fait bien 200 pages, c'est l'équivalent d'un plan séquence au cinéma. Un plan séquence, comme vous savez, c'est d'une seule coulée, il n'y a pas de coupe, et donc on voit, voilà, donc l'action se déroule en temps réel. La première partie de l'idiot, c'est deux mecs qui se rencontrent à l'aube dans un train. C'est l'aube, c'est le début du livre et ils sont déjà épuisés et hagards. Et c'est toute la journée qui s'ensuit avec des rencontres, des discussions, des gens qui arrivent, qui poussent, et ça dure 200 pages comme ça, en apnée, quoi. C'est-à-dire,
à un moment. Et alors, qu'est-ce qui vous marque là-dedans?
Ce côté absolument haletant du fait de ne jamais couper, ça ne coupe pas jusqu'au soir. Il y a un équivalent d'ailleurs qui m'a toujours frappé, mais c'est pas sur tout l'album, mais c'est les 15 premières pages de l'affaire Tournesol de l'album de Tintin. Les 15 premières pages de l'affaire Tournesol, ça marche exactement comme ça. C'est-à-dire que c'est en temps réel, il se passe constamment des choses. C'est à Moulinsart, il y a le Séraphin Lampion qui arrive, il y a des bordures, des Sildaves embusquées dans le parc, il y a la télévision qui explose, enfin tout. Et tout ça, c'est d'une seule coulée. Il n'y a pas d'interruption. Et ça m'avait énormément frappé.
Vous écrivez encore un peu plus loin dans Kolkhoz que lire Tolstoï, ça peut, ou alors c'est dans une conversation avec un ami, lire Tolstoï, ça peut déclencher l'équivalent de Festen dans votre famille, Emmanuel Carrère. Ça veut dire qu'il y a vraiment l'idée que lire certains livres, parler de certains livres, ne plus vouloir lire certains livres, ça équivaut à une engueulade dans un repas de famille, une engueulade politique, affective, éventuellement amoureuse. Ça veut dire que ça scelle quel genre d'intimité le rapport au livre dans votre famille.
L'histoire marrante quand même qu'il faut rappeler, c'est que ma mère m'a fait lire Dostoïevski très jeune. Elle avait hérité de ça de son père, c'est-à-dire que il n'y avait rien de mieux que Dostoïevski. En revanche, on aimait par ailleurs dans la famille tous les grands auteurs russes, à l'exception de Tolstoï. Pour des raisons que j'ai mis beaucoup de temps à élucider, on avait l'idée comme une espèce de fierté familiale. Chez nous, on n'aime pas Tolstoï. Chez nous, on sait que c'est pas bon, Tolstoï, contrairement à ce que pense un tas de naïfs, de trucs comme ça. Et j'ai répété ce credo sans lire Tolstoï jusqu'à un âge assez avancé, puisque c'est seulement, je pense, quand j'approchais la quarantaine, qu'un jour, mon oncle, qui avait, lui, été élevé dans le même credo, et qui, ayant 20 ans de plus que moi, avait, lui, la soixantaine, m'a un jour appelé en pleine nuit, en me disant « Tu sais ce qui m'arrive ?» Je dis « Ben non, je ne sais pas. Je suis en train de lire Guerre et Paix. » Eh ben, tu vas voir ce que tu vas faire demain. Tu vas aller dans une librairie, tu vas t'acheter Guerre et Paix et tu vas voir ce qui va t'arriver. J'ai vu ce qui m'est arrivé. Je pense que Guerre et Paix est pour moi le plus grand roman du monde. Mais c'était une espèce de lecture. C'était interdite, comme je ne sais pas, dans d'autres maisons, on peut peut-être interdire de lire des livres porno ou des choses comme ça. Chez nous, c'était Tolstoï. Tolstoï, ça, non, c'était, on faisait pas ça. On était des gens convenables, on lisait pas Tolstoï.
Mais du coup, c'est assez intéressant, c'est que le fait que ce soit votre oncle Nicolas qui tient une place si importante dans ce roman et manifestement dans votre vie, Emmanuel Carrère, qui vous ouvre l'autorisation ou la porte vers Tolstoï, ça veut bien dire que dans tous les êtres qui vous entourent, là, en tout cas, dans cette galaxie que vous dépeignez dans Kolkhoz, les livres, c'est le véhicule de quelque chose. Vous écrivez aussi dans Kolkhoz que, à certains endroits, il est question de ne plus avoir peur de l'amour que vous avez pour votre mère. Les livres, ça semble être un véhicule possible pour dire ça, ou l'inverse de ça, ou quelque chose qui s'approche de l'amour.
Oui, comme vous dites, ça ou l'inverse de ça. L'amour ou les, je dirais pas la haine, mais les, disons, les espèces de...
D'inimitié, pour avoir des mots.
De tension, de choses comme ça. Et en effet, cette espèce de désaccord sur Tolstoï et Dostoïevski, c'était plus qu'une espèce de confrontation de goût, de choses comme ça.
Ouais, c'est
comme
ça, si c'était,
se jouait un truc, là, c'était quasiment aussi, en effet, aussi violent que des opinions politiques totalement opposées. Enfin, disons que là-dessus, on peut dire que dans ma famille, ils prenaient la littérature au sérieux.
Exactement. Et est-ce que vous la prenez au sérieux
aujourd'hui ? Ah oui, moi aussi, absolument.
Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie, Emmanuel Carrère, de prendre la littérature au sérieux ? Parce que c'est vraiment, moi je suis sortie de Kolkhoz avec pas mal de choses, mais vraiment en me disant, ça c'est une famille qui prend la littérature au sérieux. Ça veut dire
ah oui,
quoi,
ça,
vous,
vrai.
Prendre la littérature
alors,
au sérieux.
Alors, je ne pense pas que ça se traduise aujourd'hui par des hostilités aussi véhément, des engouements aussi véhément.
Non mais vraiment, vous, votre rapport à la lecture et à la littérature, comment ça se traduit cette phrase, oui, je prends la littérature au sérieux.
Bah, c'est presque la chose que je prends le plus au sérieux et parce que c'est ce que je fais, bon an, mal an, avec ce que je peux, avec tout ça. Mais en fait, malgré tout, c'est ce que je fais et il n'y a rien que je prenne davantage au sérieux. Si je le prenais pas au sérieux, moi, qui le prendrait au sérieux? Je veux dire, alors, j'ai plus maintenant l'espèce de, comment dire, le fait d'accorder tant d'importance au goût à tel ou tel goût comme affirmation de soi, comme une espèce parce que je suis de toute manière un lecteur tellement omnivore, tellement éclectique, que j'aurais du mal j'ai beaucoup de mal à pas aimer quelque chose en réalité. J'aime un peu tout.
Mais ça répond pas tellement à la question du sérieux. Le sérieux, c'est à quoi ça
nous vous voulez qu'on réponde aux questions exactement?
Et why not? Et why not? Non, mais parce que ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un comme vous qui prend la littérature au sérieux. C'est quoi comme considération? Parce que, pourquoi j'insiste sur cette question? Pas pour vous embêter, Emmanuel Carrère, mais parce qu'au début de votre livre, vous dites, c'est ça mon métier. En fait, on passe pas beaucoup de temps sur cette terre. La trace qu'on va laisser sur cette terre, il me tient à cœur de la raconter. Et c'est ça mon métier,
oui,
dites-vous.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui résonne quand vous dites là, en direct, la littérature, je la prends au sérieux, parce que j'ai eu l'impression que Kolkhoz, c'était aussi une façon de dire ce que je vais faire, c'est quelque chose de sérieux, c'est raconter la vie de certaines personnes.
Alors là, vous êtes gentil parce que vous m'aidez à répondre à votre question.
Bah, c'est ça que je fais aux invités qui me semblent sécher, je les aide un peu.
Non, mais c'est vrai. C'est somme toute une tâche très sérieuse de raconter ce qu'on a été, ce qu'ont été ceux qui vous ont surtout précédé, parce que oui, c'est de plus en plus ce à quoi je m'estime voué. Et puis il y a aussi que c'est à peu près tout ce que je sais faire.
Dans ce même passage, vous dites que ce que vous aimez, c'était ce que je citais en introduction, ce sont des livres qui travaillent à la fois la dimension horizontale et la dimension verticale, en définissant bien ces deux dimensions-là, en disant que la dimension verticale, c'est peut-être à voir avec la lignée et les générations, et que c'est peut-être là sans omettre le monde autour, sans omettre la dimension politique et historique, mais c'est peut-être là que vous avez le plus envie d'écrire, ce que vous faites dans Cold Cause. Est-ce que ça s'est précisé d'année en année?
Ah, je pense que c'est beaucoup une question d'âge, effectivement, que cette sensibilité, cet intérêt, en effet, à ce qu'on peut appeler la dimension verticale de la vie, c'est-à-dire les rapports entre générations, plus que les rapports avec les gens plus ou moins de votre génération,
quoi.
Qui sont ceux qu'on aime, vos amours, vos amis, tout ça. Pendant longtemps, cette dimension verticale, je m'en souciais très peu, hein, et on m'aurait énormément surpris il y a encore même 15 ans, en me disant que je me retrouverais à écrire une espèce de saga familiale sur ma propre famille. Mais ça vient... Alors, à la fois, je pense avec l'âge, je pense qu'on est beaucoup plus sensible à ça, l'âge venant. Et puis, cette manifestation de l'âge qui est à un moment la mort de ceux qui vous précèdent, la mort de la génération qui précède, en l'occurrence de mes parents. Mes parents, en plus, sont morts très âgés, enfin, avaient 94 et 93 ans. Mais même à 94 ou 93 ans, celui qui est... À la place où je me trouve, on est tout de même orphelin. On est tout de même orphelin. On est à un autre endroit dans la vie. Et à cet autre endroit, on a l'impression que on a quelque chose qui est, je sais pas, c'est peut-être trop dire un devoir, mais enfin une espèce de comme s'il y avait lieu. Alors, à sa façon, chacun à sa façon. La mienne est peut-être un peu brutale, mais d'honorer ses parents.
On va parler de votre livre Cold Cause juste après cette variation Goldberg interprétée par Glenn Gould. Je cite un passage de votre roman où vous parlez de Glenn Gould, de votre livre. On m'a dit avant d'entrer, mais c'est plus des romans qu'il écrit. Vous écrivez donc. Glenn Gould disait qu'il existe pour chacun un ratio optimal, très variable, entre le temps passé seul et le temps passé en compagnie de ses semblables. À lui, il fallait des journées entières de solitude pour se laver de quelques heures en société. Et de façon beaucoup moins radicale, je suis plutôt de ce bord.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Moi, je crois aux derniers instants de la vie, dit un personnage de votre roman Emmanuel Carrère, au regard que chacun porte sur la sienne quand il la quitte. Est-ce que j'ai bien vécu ou non? Est-ce que j'ai fait plus de bien que de mal? C'est la seule vérité. C'est Macha qui prononce ces mots dans votre texte, Emmanuel Carrère. Elle est russe. Et elle est absolument désespérée par la guerre menée en Ukraine par son pays. Vous avez cherché longtemps une porte d'entrée pour, comme vous dites, écrire sur tout ça, avec un grand geste de la main. Et c'est la mort de votre mère, Hélène Carrère d'Encausse, en 2023, qui vous l'offre. Mais peut-être aussi celle de votre père, quelques mois plus tard. Deux portes d'entrée qui valident l'adage chinois que vous citez, selon lequel il faut, dans toute construction, un vide autour de quoi l'espace s'organise. Cet espace, c'est Kolkhoz, votre dernier roman qui est apparu aux éditions POL. Et avant qu'on plonge dedans, vous écoutiez Glenn Gould jouer les variations Goldberg de Bach et vous me disiez vouloir dire un mot.
J'avais envie de dire un truc. Je pense que c'était la première version de si je ne me trompe, qu'a enregistré Glenn Gould. Il a enregistré deux fois dans sa vie. L'une au début de sa carrière, où c'était un jeune homme éclatant de génie, de fougue, tout ça. Et une autre à la toute fin de sa vie, quand c'était pas un vieil homme, parce qu'il est pas mort vieux, mais il y a 20 ans d'écart. Les deux enregistrements sont très, 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 sont magnifiques tous les deux et très différents. Et ça reproduit quelque chose, c'est que les variations Goldberg, ça part de cette petite aria de rien du tout, très calme, très et puis on passe par toutes les variations pour arriver à la même aria, ce qui est un peu différente, mais qui surtout prend un poids et une densité totalement différente parce qu'elle arrive à la fin de ces
variations.
Cette espèce de voyage musical qui est quasiment sans équivalent dans la musique. Et je trouve ça très touchant que la trajectoire personnelle de Glenn Gould, dont c'était l'œuvre absolument fétiche, épouse le mouvement même, et le mouvement tellement singulier des variations Goldberg. Et c'est difficile de pas, par rapport à tout ce dont on disait, c'est difficile de pas le transposer un petit peu dans l'histoire de nos vies et aussi d'un, alors beaucoup plus modestement, mais d'un livre comme ça qui je dirais est à la fois dans la lumière de l'enfance et la mienne et celle de ma mère et dans la lumière de la mort de mes parents, que ça, c'est comme si voilà le livre faisait aussi tout ce parcours. Encore une fois, je veux pas faire de comparaison.
Mais c'est absolument à propos, en tout cas. C'est-à-dire que, et c'est aussi pour ça qu'on voulait entendre Glenn Gould et se poser sur ce que vous dites de sa vie et de son rapport à la solitude. Il y a quelque chose dans Kolkhoz qui a à voir avec l'examen, il me semble, quand même. L'examen du dernier mot, du dernier jour, du dernier mot prononcé, de la nuit juste avant la mort. C'est aussi un motif qui revient beaucoup, Emmanuel Carrère, et de la possibilité que l'on a, ou bien soi-même, ou bien peut-être les autres sur soi-même, alors de juger plus ou moins éthiquement, religieusement, politiquement, affectueusement, sa vie. Il me semble qu'il y a quelque chose de ça.
C'est pour ça que vous disiez, je suis touché que vous ayez lu cette phrase de cette amie russe qui dit en effet, je crois aux derniers instants de la vie, à ce qui est une variante un peu, presque tragique, de la phrase, je ne sais pas si c'est Pascal ou Montaigne, un truc qui dit une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue, qu'une vie, elle doit être examinée. Mmh. On doit la vivre en essayant de comprendre ce qui se passe, en essayant de comprendre, quand on arrive au bout, ce qui s'est passé.
Mais est-ce qu'on peut faire ça pour les autres, Emmanuel Carrère? Parce que c'est vrai que Kolkhoz, ce geste, c'est pas tellement quelqu'un, en tout cas, qui examine sa propre vie, quoique, moi je pense que dans certains silences et certaines incertitudes, il y a peut-être moyen d'y voir un certain examen. Peut-être que là, c'est une manière pour vous, en tout cas, pour ce qui est de votre mère plus que pour votre père, d'examiner l'existence.
Je pense que pour mon père aussi, mais que c'est sûr que ça a quelque chose d'un petit peu... Je ne sais pas jusqu'à quel point on a le droit d'examiner la vie d'autrui. Où est-ce qu'on peut?
Ouais, c'est
vous
ça,
avez raison. Que... Mais n'empêche que j'ai essayé. J'ai essayé et je n'ai pas eu de scrupule à le faire. Voilà, mais j'ai essayé d'inventorier, de... Alors, chez moi, tout ça, ça passe, mais ça, c'est ma particularité, ça passe par la narration. Je n'ai aucune autre capacité. Je veux dire, je ne sais pas écrire d'essais, je ne sais pas écrire même quand je fais du journalisme, je ne sais pas faire de tribune, d'analyse, de trucs comme ça. Je sais faire du reportage, enfin, ou j'essaye, parce que je sais faire de la narration, je sais raconter des choses, je sais essayer de mettre en scène des gens, d'essayer de raconter éventuellement la complexité de leur situation dans la vie, tout ça. Et donc, ma façon d'examiner ma propre vie et celle des autres, c'est effectivement, c'est le récit. ça c'est sûr.
Avec ce qui vous appartient, c'est-à-dire un regard, et il me semble que la manière dont vous examinez la vie de votre mère, y compris ses amours, ses errements politiques, ses visions, ses manques de vision, ses décisions, il me semble que vous le faites vraiment, puisque vous le disiez comme ça, depuis la lumière de l'enfance, ou avec les œillères de l'enfance. Il y a quelque chose de cet ordre-là, Emmanuel Carrère.
De la lumière de l'enfance et de la lumière de la mort. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que ce qu'on peut dire, c'est que ma mère a eu une mort impressionnante, d'une espèce de grandeur romaine.
Elle fait le job jusqu'au bout, dit l'une de vos sœurs.
Exactement. Et donc, je dirais que dans cette lumière-là, un tas de petits griefs, de petits ressentiments, de rancunes, de choses comme ça, sont tombés d'elles-mêmes. Et c'est à ce moment-là, je dirais que je l'ai vu, c'était une de ces morts, je trouve, qui couronne une vie, et j'ai l'impression que j'ai raconté sa vie dans cette lumière-là aussi. Ce qui ne voulait pas dire, dire ignorer, éviter, cacher des trucs pas spécialement plaisants.
Voire grave pour certaines, pour certaines amitiés où clairement votre mère va fréquenter des personnes d'extrême droite ou des personnes qui ont une vision négationniste de l'histoire. Vous y allez, vous ne vous y attardez pas, mais moi j'ai l'impression que vous ne vous y attardez pas parce que vous avez envie de raconter d'autres choses.
Oui, enfin, je n'allais pas faire une thèse sur le fait que ma mère a connu des gens d'extrême droite et fréquenté des gens d'extrême droite après la guerre, dans des circonstances assez particulières. Mmh. Mais bien sûr qu'il fallait le raconter. Bien sûr qu'il fallait le raconter. Et ça, à défaut, ça s'explique en tout cas.
À la toute fin, dans une scène superbe que je vais essayer de ne pas dévoiler, mais vous regardez votre père juste avant de le quitter, un père qui a passé beaucoup de temps à réunir de la documentation sur la famille de votre mère, si bien qu'à la toute fin du roman, vous vous demandez s'il ne vous l'a pas dicté, ce roman-là, Emmanuel Carrère. Qu'est-ce que vous dites lorsque vous écrivez cette phrase ?
J'étais extrêmement content d'écrire cette phrase, tout simplement, parce que comment dire, ma mère était une personne qui attirait la lumière, la recherchait, tout ça, et Dieu sait qu'elle...
Donc, historienne, académicienne.
Elle a recherché et obtenu tous les honneurs de la République, tout ça, d'une façon que je trouve d'autant plus émouvante qu'au fond, elle était une petite fille pauvre, apatride, avec un nom impossible, tout ça.
Vous rappelez quand même, parce que pour mesurer cette pauvreté et peut-être la situation de l'enfance de votre mère, vous rappelez ça lorsque vous découvrez qu'elle vous fait un cadeau de Noël, c'est un pull de cachemire, il vaut 700 €, il n'existe qu'en marine et en crème, et vous dites qu'il y avait quelque chose de la cherté de ces cadeaux qui ne faisait que parler.
Bien sûr, bien
de
sûr.
La c'était grande un, vulnérabilité
c'était un cadeau
financière.
D'enfant pauvre qui a de l'argent, et je trouvais du coup ça très 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 émouvant. Donc pour revenir
allez-y.
Non, mon père lui s'est trouvé au fond dans l'ombre de ma mère, et même pour moi, pour mes sœurs, on a toujours connu ce père dans l'ombre, un peu évasif, un peu qu'on aimait, qui nous aimait, mais qui dont on et au fond pour moi la surprise de ce livre a été le fait que la surprise heureuse de ce livre, ça a été le fait que mon père entre dans la lumière aussi dedans. Et c'est pour ça que quand vous dites cette phrase où je dis que d'une certaine manière, mon père, il me l'a dicté par l'espèce de passion et de documentation qu'il a réunie sur la famille de sa femme. Et au fond, c'était une phrase pas du tout... Je n'aurais jamais eu l'idée d'écrire une telle phrase au début du livre, quand je l'ai commencé. Et le fait d'arriver
bien
à la fin
du livre... Bien que travaillant sur la documentation qu'il avait réunie.
C'est en arrivant à la fin du livre que cette phrase est venue tout naturellement. Et c'est comme ça que je me suis aperçu, rétrospectivement, en regardant le chemin parcouru, que d'une certaine façon, j'avais écrit le livre de mon père aussi. C'est une chose très importante, tout comme le regard rétrospectif sur sa vie. C'est, moi, ce qui m'importe le plus dans un livre, et ce à quoi d'ailleurs je travaille le plus, c'est à l'effet rétrospectif quand on arrive au bout. Ce qui se passe quand on arrive au bout et qu'on regarde et que tout à coup on prend conscience de ce qu'on vient de lire. Et ça, c'est ce que j'aime le plus dans les livres que je lis, et c'est l'effet que j'espère obtenir dans les livres que j'écris.
Il n'est donc pas anodin qu'on termine avec votre père dans une forêt, dans la lumière.
On a vraiment fait du chemin, quoi.
Et vous dites aussi dans cette fin, puisque vous travaillez tant la fin, Emmanuel Carrère, que c'est celui qui a aimé. Et comme il est beaucoup question de là où ça échoue, là où ça rate l'amour, là où c'est éventuellement caché, là où c'est où ça peut se vivre, vous dites ok, peut-être il a souffert, il a peut-être souffert comme un chien, mais c'est celui qui a aimé. C'est pas rien d'écrire cette phrase.
Ouais, il y a un poème de Oden, le poète anglais, dans lequel il y a deux vers. Je saurais pas les dire ni en anglais, la traduction vaut ce qu'elle vaut, mais il dit puisque l'amour est toujours inégal, que l'un aime et l'autre, eh bien moi je préfère être celui qui aime, même si c'est la place la plus difficile. Non, je saurais pas dire la même chose, mais je trouve ça beau et je trouve que c'est une espèce d'épitaphe pour mon père qui est juste.
Alors on écoute un extrait de Kolkhoz où il apparaît.
En dehors du fidèle Henri Mas, qu'il retrouvait au mieux deux fois par an, mon père n'avait pas d'amis en propre. Et dans le bureau tendu de tissu vert bouteille qu'on lui avait attribué, il consacrait des journées solitaires à ses recherches généalogiques. Personne ne l'appelait. Il n'appelait personne. Il n'avait pas de téléphone portable. Et comme mes parents qu'est Conti étaient servis, les courses faites, le Figaro arrivant chaque matin, il n'avait même pas le prétexte pour adresser la parole à quelqu'un de sortir acheter une baguette ou le journal. Quand il se promenait dans le quartier, le long des quais, il fouinait dans les caisses des bouquinistes, poussait quelquefois les portes des magasins de gravure. Sa confortable retraite lui était versée sur son compte à la poste. Il payait ses très rares achats avec un chéquier. Mais un jour, tout à fait exceptionnel, où le caprice lui est venu de s'acheter des chaussures, on lui a dit qu'on n'acceptait plus les chèques. Il avait bien une carte de crédit, non ? Non. Mon père n'avait pas de carte de crédit. Et quand il a timidement parlé d'en avoir une, ma mère, qui irritait de sa part toute velléité d'indépendance, a dit avec son habituelle mauvaise foi que c'était une source de tracas sans fin, une carte de crédit, qui n'en avait aucun besoin. Et mon père s'est incliné. Il a accepté ce qu'un enfant de 10 ans n'accepterait plus, n'avoir tout simplement pas d'argent. Un jour, comme je lui disais que tout de même, notre mère était vraiment dure avec lui. Il a haussé les épaules et soupiré. J'ai fait le plus gros. Un autre jour, ta mère n'a aucun humour. Emilia, leur gouvernante, n'a aucun humour. Alors que veux-tu ? Quelquefois, je me mets devant la glace et je me fais rire.
Un extrait de Kolkhoz où les chapitres sont courts à ce moment-là et s'enchaînent comme une sorte de portrait de votre père en éclat, Emmanuel Carrère, qui termine par vraiment, il me semble, quelque chose de très doux, amer. Enfin, cet éclat de rire, un éclat de rire rendu nécessaire, possible, vital, quoi, je sais pas, par la solitude quand même.
Par la solitude et une position tout de même très... je sais pas, rebuté, quoi, d'une certaine façon. Il était... mais c'est vrai qu'il avait l'humour de ceux qui ne sont pas en position dominante. Mmh. Ma mère, qui était en position dominante, c'est effectivement pas lui faire offense que de dire qu'elle était absolument dépourvue d'humour. Elle pouvait être drôle, ce qui est autre chose. Elle pouvait raconter des choses avec esprit. Et un vrai talent de conteuse. Mais l'humour qui suppose un petit peu de distance sur soi, tout ça lui était tout à fait étranger. De même que... Qu'au fond, justement, toute forme de distance par rapport à soi, et notamment... Notamment, ma mère faisait partie des gens qui ne savent pas qu'ils ont un inconscient, ou qui ne sont même pas au courant du fait que l'inconscient existe, ce qui vous transforme assez facilement en une espèce d'inconscient à ciel ouvert. Alors mon père n'était pas très au courant.
Et donc, lisible alors, comme un être lisible ?
Oui, non, mais ma mère avait des à la fois de la mauvaise foi et pouvait dire des énormités, quoi. Alors que mon père, qui n'était pas davantage au courant de l'existence de l'inconscient, avait cette espèce d'humour des gens qui se trouvent en position d'infériorité, quoi, qui regardent dans la poule qui regarde d'en bas.
Ou du fond du couloir.
Ou du fond du couloir, oui.
Il y a évidemment, dans votre livre, Emmanuel Carrère, une dimension très historique, très géographique, et l'histoire à plusieurs échelles. Mais il y a une dimension très intime, et puisque vous évoquez l'inconscient, c'est aussi depuis la place d'un enfant qui regarde le couple de ses parents, un couple de ses parents qui existe, un couple de ses parents qui se délite, les amours de sa mère, les amours de son père, le rapport aussi entre la fratrie et les deux sœurs. Il y a vraiment quelque chose que, on parlait d'examen, mais dont il semble que vous faites l'examen minutieux. Je pense à des phrases où vous réalisez que oui, par exemple, la première scène de seins, les premiers seins que vous les voyez à côté de votre mère sur
au
un
cinéma,
écran de, voilà, sur un
en
écran
voyant
de,
le film
de cinéma.
C'était les seins de Dominique Sanda dans le film de Vittorio De Sica, Le Jardin des Finzi Contini.
Mais vous évoquez aussi le souvenir terrorisant de la mère, de la voix de la mère à voix basse qui pleure et où vous comprenez qu'elle aime quelqu'un d'autre que votre père et qu'elle aime quelqu'un d'autre peut-être que vous et que la crainte infantile comme ça est réveillée. On a l'impression que vous êtes en mesure de récupérer par l'écriture les plus petites, les plus infimes sensations d'enfance.
Alors, ce que vous citez, c'est l'histoire qui était le début de la profonde mésentente conjugale de mes parents. C'est un traumatisme tout à fait banal. Voilà, de se rendre compte que les choses ne sont pas aussi heureuses qu'on avait espéré qu'elles, et harmonieuses qu'on avait espéré qu'elles le soient. Enfin, c'est banal, mais c'est traumatique quand même. Cela dit, une chose dont je de la même façon, une chose qui m'a un peu agréablement surpris en écrivant ce livre, en racontant mon enfance. Enfin, en racontant mon enfance, il y en a pas des caisses sur mon enfance.
Non, il y a des scènes, quoi.
Voilà. C'est des petites scènes. C'est que, alors que moi, je me vois plutôt comme quelqu'un, de malheureux, pas au sens. J'ai été plutôt épargné par le malheur, objectivement. Mais quelqu'un qui a pas une disposition naturelle au bonheur, à une espèce de rapport de plein pied avec la vie. Je me suis aperçu que j'ai eu une enfance très heureuse et j'étais très heureux d'en faire remonter comme ça des souvenirs qui étaient. C'est un livre pour que j'ai eu beaucoup de bonheur à écrire. C'est curieux parce que c'est un livre écrit dans la traîne, en fond, de la mort de mes parents, qu'on peut donc considérer comme un livre de deuil. Mais ça a été un livre plus très dont l'écriture a été heureuse et somme toute assez simple, assez détendue. Enfin, c'est un livre qui a mis un peu de temps à venir tout seul parce qu'il est quand même assez volumineux, mais qui est en gros venu tout seul.
Mais est-ce que c'est pas parce qu'il est question justement, Emmanuel Carrère, de déposer son sac? Vous dites ça de quelque chose, d'un moment très particulier de votre mère, Emmanuel Carrère, dans Cause, quand elle arrive vraiment dans son dernier lieu de vie, où il y a quelque chose de ce geste-là. Mais d'une certaine manière, Cause, que ce soit pour vous, pour votre mère, pour votre père, ce que vous dites aussi de vos sœurs, mais peut-être même aussi de l'histoire dont vous héritez de l'exil et du monde russe, il y a un truc qui se dépose quand même.
Cette idée juste de poser son sac, son paquetage, comme elle disait, à l'entrée d'un centre de soins palliatifs où elle est morte quelques jours plus tard, j'ai eu l'impression que ma mère était quelqu'un de tellement tenu, de tellement corseté, qui a tellement tout fait comme il fallait faire, enfin avec une espèce d'héroïsme qui ne s'est jamais relâché. J'ai l'impression que mourir pour elle, ça a été un peu les vacances. Elle pouvait lâcher. Et elle l'a fait. Elle l'a fait à sa façon stoïcienne, mais elle a eu une espèce d'abandon stoïcien.
On va écouter une archive de Marguerite Yourcenar que vous citez. Elle est en 1971 au micro de Patrick de Rosbeau.
Tout roman est historique, pour la simple raison que tout roman se passe dans le passé. Et que un événement situé, mettons, à un an d'ici ou à six mois d'ici dans le passé, est aussi irrémédiablement perdu, aussi difficile à récupérer que s'il se passait il y a des siècles. Je donnerai pour exemple le fait, par exemple, que je me trouvais à Paris en 1968 et que si l'envie me prenait d'écrire un roman sur la révolte étudiante à Paris, je ferais exactement ce que je fais quand j'essaie d'évoquer un événement se plaçant dans la Rome du IIe siècle ou à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire que je relirai les documents de cette année-là, je m'informerai auprès de mes amis pour voir s'ils ont des renseignements qui me manquent, je rouvrirai les recueils dans lesquels sont imprimés les graffitis écrits sur les murs en mai 68. Enfin, je ferai l'impossible pour m'informer de mon mieux, exactement comme je le fais lorsqu'il s'agit d'un événement placé dans le passé. La politique, c'est-à-dire ce qui est le tissu même de l'histoire, joue un rôle considérable dans nos vies, dans les vies humaines, que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou non. Et par conséquent, même lorsque nous nous retournons vers une aventure tout à fait privée d'il y a 5 ans ou il y a 10 ans, nous rencontrons un certain nombre de faits qui sont déjà historiques et dont nous avons à tenir compte.
1971, la voix de la romancière Marguerite Yourcenar, Emmanuel Carrère, qui dit, je le répète, la politique, c'est ce tissu même de l'histoire. Et lorsque nous retournons aux affaires plus privées, il y a quelque chose de ce tissu qui demeure. Est-ce que c'est un bon outil, cette archive, pour essayer de parler de l'entreprise? Là, j'entends vraiment de tissage et d'écriture à laquelle vous vous adonnez dans Colcause.
Alors, j'ai d'abord pensé à une chose en l'écoutant. Ça m'arrive, quand j'écoute ma voix ou des trucs comme ça, d'être un peu embarrassé en trouvant que j'ai une voix vraiment un peu bourgeoise, un peu une voix des intonations des Boucquartiers. Mais alors Marguerite Yourcenar, elle est vraiment gratinée. Je dis ça avec énormément d'affection et d'admiration parce que j'adore Marguerite Yourcenar. Elle est présente dans ce livre comme dans d'autres parce que je trouve que justement, son entreprise de raconter, alors là, vraiment, son entreprise de peinture verticale, d'exploration verticale du monde, qui est vertigineuse, parce qu'elle va quelquefois jusqu'à, dans Archives du Nord, elle va quasiment jusqu'à la préhistoire, en zoomant, jusqu'à cette pauvre toute petite chose qui est elle, qui est cette petite chose qui vagit au début de la Grande Guerre en Belgique. Et la façon dont elle raconte toute l'histoire de ses ascendants, tout ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument magnifique par la hauteur de vue, très 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 admiratif. Je ne sais plus quelle était exactement la question.
Moi non plus, peu importe. C'était juste pour savoir si sur la manière dont elle décrit son tissage là, ça nous permet de parler de Colcause. Mais puisque vous parlez de hauteur de vue, je n'ai pas l'impression que c'est que ça, ou hauteur de vue ou profondeur de champ, ce à quoi vous vous attelez dans Colcause ou dans d'autres choses, Emmanuel Carrère. C'est que j'ai aussi l'impression que vous vous demandez comment on est agi par ça. C'est-à-dire que vous regardez là tous ces êtres-là, donc
à ceux qui nous déterminent, vous voulez dire ceux qui...
Oui, nous déterminent ou nous traversent ou nous demandent d'être regardés. Elle dit la politique est le tissu même de l'histoire, mais j'ai aussi l'impression que regardant la vie de votre mère, vous vous demandez comment elle a regardé la politique, comment elle a été traversée par l'histoire, la grande histoire.
Alors, du côté de ma famille maternelle, ils ont été plus traversés par la grande histoire que la moyenne des gens, puisque la vie de sa famille a été... il y a eu la révolution d'octobre qui les a emportés comme des fétus dans la tempête de l'histoire. C'est pas le cas. Ma famille de mon père, par exemple, c'était une famille mi-béarnaise, mi-bordelaise.
Au fond, un peu tranquille.
Oui, assez tranquille, je veux dire, même pour, ils ont vécu la guerre, je pense, comme la plupart des Français, en attendant que ça passe. Je veux dire, ils ont... ils se sont tenus tranquilles, quoi. Mes grands-parents russes ou géorgiens, ils pouvaient pas tellement. Ils ont donc vécu des expériences d'une amplitude beaucoup plus grande.
Est-ce que c'est ça qui vous rend sensible, vous, dans votre vie d'auteur, de journaliste, d'écrivain, Emmanuel Carrère, à la notion d'événement? Est-ce que vous pensez que le passé et on va dire la généalogie de votre mère et la manière dont ces vies-là ont été tellement soumises à l'histoire vous rend vous sensible?
Alors, c'est sûr on peut dire presque que c'est une facilité, mais ça se raconte mieux que, vous voyez, comme disait Verlaine, la vie humble aux travaux ennuyeux est facile. Ces espèces de vies ont une espèce de, enfin, un potentiel romanesque considérable. On a envie d'y aller, on a envie de raconter ça. Je suis peut-être pas encore mûr pour aller raconter des vies plus minimalistes.
Il y a quelqu'un qui apparaît aussi, mais comme un fantôme au loin, c'est le père de votre mère. Quel rôle il joue dans la manière dont, pour reprendre le début de notre conversation, vous examinez sa vie à elle?
Ça impose malgré tout de dire deux mots ce grand-père, dont j'avais déjà parlé pas mal dans un livre qui s'appelait Un roman russe, qui était paru il y a presque 20 ans et qui m'avait pendant un bon moment brouillé avec ma mère. Le grand-père qui était un émigré géorgien.
Vous rapportez, je vous coupe, mais un dialogue où elle vous interdit d'écrire sur son père.
Ouais.
Et vous lui dites, si tu m'interdis ça, tu me demandes de me taire, et si tu me demandes de te taire, c'est la pire des choses que tu peux faire. Et vous,
c'est-à-dire que ma mère, elle disait, elle avait un argument typique un argument formidable qui était de dire, mais sur les 100 millions d'histoires qu'on peut raconter, pourquoi tu veux choisir celle-là? Tu lui dis, mais maman, s'il y en a une seule qu'il t'est interdit de raconter, tu peux pas en raconter une autre. Le grand-père était émigré géorgien. À la différence de ses frères, par exemple, il n'était pas arrivé à s'intégrer en France. C'était un type brillant, mais extrêmement torturé, tourmenté, je dirais tortueux, tout ça. Pendant la guerre, pendant l'occupation à Bordeaux, comme il ayant fait des études en Allemagne, il parlait bien allemand, et que par horreur du bolchevisme, il avait de la sympathie pour le national-socialisme, il a travaillé comme interprète pour la commandantour à Bordeaux, et à la libération, il a disparu, très probablement exécuté sommairement, enfin en tout cas, on ne l'a jamais revu. Il est certain que cette affaire-là a été centrale pour ma mère, non seulement parce qu'elle aimait son père, mais parce que, si vous voulez, perdre son père à 16 ans, c'est déjà pas facile, qu'il s'agisse pas d'une mort, mais d'une disparition, c'est-à-dire deuil impossible, tout ça, qu'en plus ça soit dans une circonstance, enfin, qui mêle tout ça de honte, d'opprobre, tout ça, c'est une espèce de combinaison, quelque chose qui a été très très lourd à porter, et je pense qu'elle s'est... qu'elle s'est arc-boutée toute sa vie à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, l'aspiration qu'elle a eue, parce que son père avait vécu en paria, avait vécu et était mort en paria, elle a voulu, s'intégrer à la société française, ce à quoi elle est arrivée avec un éclat qu'elle aurait certainement pas pu imaginer dans sa jeunesse. Et je dirais que je pense qu'elle a vécu avec cette espèce de mantra à chacune des étapes de cette extraordinaire réussite dans la société française, républicaine, tout ça, de se dire si mes parents me voyaient. Je pense que si mes parents me voyaient a accompagné toute sa vie.
Vous dites qu'elle tenait très fort à terminer le dictionnaire avant sa mort, qu'on s'est trompé d'ailleurs sur le dernier mot du dictionnaire qu'elle aurait...
Du dictionnaire de l'Académie.
Voilà, dictionnaire de l'Académie. Et il y a ce Z qui m'a troublée, puisqu'on parle de l'entremêlement entre la grande histoire et puis l'histoire de... Ce Z qui est aussi le nom de l'opération et de la guerre russe menée en Ukraine, et qui fait se percuter comme ça les lignes de vie, en fait, et les échelles de vie que vous tressez, Emmanuel Carrère. À quel point est-ce que les motifs qu'on peut retrouver... Tout à l'heure, on parlait des variations de Goldberg, la manière dont un petit comme ça, une petite phrase de note se trouve amplifiée, modifiée, rejouée. À quel point êtes-vous conscient de tous les motifs que vous brassez, leurs retours, leurs variations dans Colcos?
La preuve que j'en suis pas totalement conscient, c'est que là, quand vous me dites qu'il y a d'un côté le Z, dernière lettre de l'alphabet, et ma mère n'est pas allée jusqu'au bout du Z dans le dictionnaire de l'Académie, et le Z qui est en gros la croix gammée du poutinisme, c'est-à-dire...
Et la guerre qu'elle n'a pas vu venir.
Mais c'est vous qui faites cette relation.
Il y a quand même un chapitre qui s'appelle Z.
Oui, mais le fait d'établir le rapport entre les deux, moi je n'y avais pas pensé une seconde et vous avez mille fois raison de le faire. Mais ça dit quelque chose qui est très, très plaisant, c'est qu'un livre a un inconscient aussi.
Oui.
C'est agréable à penser. C'est qu'un livre est un petit peu plus que ce qu'on savait.
Oui, donc laissons décanter Colcos et montrer.
Non, mais j'étais très content que vous me disiez ça. Ça m'a.
On écoute notre auditrice vous poser une question. Elle vous a lu, elle a adoré, elle a même ri.
J'espère.
Bonjour le Book Club, bonjour Emmanuel. Je vous appelle Emmanuel parce que c'était le prénom de mon frère et j'adore ce prénom. Voilà Emmanuel, j'ai lu votre Colcos et je voulais vous parler de deux aspects de votre livre. Le premier, c'est vous nous emportez en Russie et surtout en Géorgie. Je dis surtout parce que je connaissais pas du tout la Géorgie. Et je trouve que c'est un aspect très intéressant de vos livres, c'est que ça m'apprend des choses et ça me décentre, donc je vous remercie pour cela. Et vous le faites avec humour, et ça c'est le deuxième aspect dont je voulais parler. Dans vos livres en général et dans celui-ci en particulier, ben en fait vous rendez votre lecteur intelligent. Vous êtes drôle, vous êtes second, troisième, quatrième degré. Et alors on se dit, ah super, j'ai chopé le quatrième degré. Et du coup, on est fiers, on est contents. Donc merci pour ça.
Bah, merci pour cette...
Ouais, elle s'appelle Françoise, notre auditrice, pardon, j'avais pas dit son prénom. Plusieurs degrés d'humour dans cet art de la narration, Emmanuel Carrère, relevé par Françoise.
Bah d'abord, merci Françoise de les avoir relevés. Bah, moi, j'aime bien qu'un livre soit un peu drôle, mais j'aime bien... Non. Alors, par ailleurs, je n'aime pas l'humour, comment dire, plaqué. Je n'aime pas quand on se dit « il faut que quelque chose soit drôle ». J'aime bien que l'humour, c'est ou la drôlerie, puisse sourdre des situations, venir très naturellement dans une phrase, comme ça. Mais quelquefois, voilà, c'est amusant la façon dont les choses viennent, mais ça fait, au fond, ça fait partie aussi d'une espèce de, d'une façon de s'adresser au lecteur, d'une façon de créer un peu un lien avec lui, de lui apprendre des choses. Moi, j'ai plaisir à apprendre des choses moi-même en écrivant un livre et à les apprendre aussi au lecteur. Il y a une espèce de petite dimension de pédagogie que j'aime bien et j'aime bien que ça vienne avec une certaine drôlerie. Mais j'essaye de pas la rajouter, quoi.
C'est gage de quoi, d'après vous?
Gage de quoi?
Cet humour. Parce que vous parlez pas de choses très drôles, ni dans Colcos, ni dans de nombreux de vos livres, Emmanuel Carrère.
Bah, je parle aussi de choses drôles. Enfin, ouais. Il y a des...
Les situations, certainement.
Oui, les situations, les... Non, il y a beaucoup de choses drôles que je raconte. J'ai l'impression qu'il y a une... Il y a... Par ailleurs, ma mère, qui est un personnage qui est imposant et tout, et par moments un personnage assez comique, comme souvent les gens qui ne se rendent pas bien compte de ce qu'ils disent. Et elle le fait avec une espèce de d'ampleur, de majesté, quelque chose comme ça que j'aime beaucoup.
Est-ce que c'était une forme de désinvolture ?
Oh non, je pense que personne n'a été plus étranger de sa vie à la désinvolture que ma mère. Ma mère a toujours été extraordinairement sérieuse, engagée dans ce qu'elle faisait. Encore une fois, ça n'excluait pas de la drôlerie, mais toute espèce de désinvolture lui était étrangère.
Le book club continue. À cette heure-ci, on fait un agenda du Book Club et on voulait vous proposer d'écrire. Vous parlez d'un concours de nouvelles, c'est le 41e prix des jeunes écrivains. Vous parlez d'ailleurs de la publication d'une de vos nouvelles, Emmanuel Carrère, où je crois que c'est votre ancien éditeur, Paul Otchakowski-Laurence, aujourd'hui décédé, qui vous dit « bon là, c'est pas possible de mettre le mot récit ». Vous y tenez, puis il vous dit « non, c'est pas possible ».
Oui, alors c'était le dernier livre de fiction que j'ai écrit, qui s'appelait « La classe de neige ». Alors, il se trouvait que c'était un court roman.
Oui, voilà, c'est ça. Je dis nouvelle, mais
moi, je résistais au mot roman comme si ça avait, comme si c'était presque prétentieux pour un livre de format assez modeste et qui me paraissait avoir la logique qui est plutôt celle d'une nouvelle. Vous voyez où on a un point de départ et puis on tire le fil et puis on arrive au bout. Et donc, j'en tenais pour le mot récit, mais Paul Otchakowski, à l'époque, me disait avec raison, mais j'arrivais pas à l'entendre, que non, quand on dit récit, c'est pas on veut dire, ça veut pas dire court roman, ça veut dire que ce qu'on raconte est vrai. Et je pense que si je m'en défendais tant et si je ne tenais tant à récit, c'est qu'au fond, dans cette fiction, quelque chose pour moi était profondément vrai. Là, c'était purement l'inconscient qui parlait aussi. Et l'inconscient qui vous fait dire un truc qui va tout simplement contre le bon sens et dont on est absolument convaincu. Mais j'ai fini, je crois que j'ai obtenu gain de cause ou qu'il n'y a eu rien, je ne sais plus.
On regardera. En tout cas, l'association du prix des jeunes écrivains lance la 41e édition du concours international de nouvelles. Depuis plus de 40 ans, ce prix accompagne des jeunes auteurs et des jeunes autrices à travers le monde en assurant sa vocation spécifique, encourager le besoin d'écrire, le désir de lire des jeunes gens et faire émerger une pépinière de nouveaux talents. Parmi ses précédents lauréats, on peut par exemple citer Florence Sévos, Nicolas Michel, Chloé Chevalier, Miguel Bonnefoy ou encore Marie Dariussecq. Vous pouvez vous inscrire à ce concours jusqu'au 29 janvier 2026 et le dépôt des textes se fera uniquement en ligne sur le site p pjef.net. Tenez-nous au courant si vous gagnez.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On a trop peu parlé, Emmanuel Carrère, de la figure de Nicolas Zouraïbichvili, qui est une figure très importante aussi dans Kolkhoz, une figure légèrement marginale, mais je ne sais pas comment dire. C'est un des axes de pas de côté, en tout cas dans cette constellation familiale que vous brossez. Alors on va terminer en l'évoquant. C'est un week-end à Poitiers où votre mère vous emmène lui rendre visite et où le piano parle. Ma mère m'a emmené passer un week-end à Poitiers, où j'ai rencontré mes cousins, lu avec eux des albums de Lucky Luke. Surtout, j'ai écouté Nicolas jouer du piano. Il composait à cette époque une de ses œuvres les plus ambitieuses, un cycle de variations pour piano seul. Mais ce n'est évidemment pas ce qu'il a joué pour nous. Peut-être une transcription de son conte musical, Moustachu et Tigré, plus probablement une sonnette de Mozart ou les scènes d'enfants de Schumann. Je retenais mon souffle. Nous n'avions pas de piano à la maison, mon père n'avait pratiquement aucune occasion de toucher un clavier et il gardait seulement dans les doigts le souvenir de plus en plus émoussé de ce fameux prélude de Bach arrangé par le compositeur russe Siloti qui évoquait pour lui la mémoire de sa mère et m'évoque aujourd'hui la sienne. Voir et entendre quelqu'un jouer devant moi, pour de bon, était un motif d'émerveillement. Ma mère, elle, faisait mine d'écouter, poliment. Il ne l'étonnait pas que Nicolas soit devenu compositeur de musique contemporaine, musique que presque par définition personne n'écoute et à ses yeux, voie royale vers l'échec. Elle ne se doutait pas qu'entre son gauchiste de frère et son petit garçon de 12 ans, promis selon elle aux plus éclatantes réussites, a commencé ce jour-là une amitié profonde, une amitié profonde qui, au moment où j'écris, nous lie encore. Merci beaucoup Emmanuel Carrère d'être venu au Book Club parler de Kolkhoz paru aux éditions POL. Au son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson. À la réalisation, c'était Daphné Leblon. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser, préparer, programmer ces émissions et particulièrement aujourd'hui à Cyril Marchand. Pour poursuivre la conversation autour de Kolkhoz et autour du reste, rendez-vous sur le compte Instagram du Book Club. Conversation animée par Alexandre Alaibegovitch.